chronique terrienne, une fois par mois sur Radio Saint-Aff, par Cécile Blanche.
En préparant l'émission sur la Guyane du mois dernier, je suis tombée sur des articles concernant le parc naturel de cette région, où la situation est problématique, surtout pour les Amérindiens qui l'habitent. Pour en savoir plus sur ces parcs naturels, j'ai cherché des infos sur d'autres parcs de par le monde. Et encore une fois, pour me rendre compte que le greenwashing sévit partout. Alors voilà, j'ai eu envie de vous faire partager mon étonnement et ma consternation. Bon, nous savons tous et toutes que les ravages provoqués par l'homme sur l'environnement sont dramatiques et attentent à la vie de tous les êtres vivants. De conférence de Stockholm en 1972, en COP21 régulièrement organisée tous les deux ans à grands frais, en passant par le sommet de la Terre en 92, les instances nationales et internationales se penchent sur l'avenir de notre planète depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il est urgent de faire quelque chose. Et depuis 50 ans, ces organismes naviguent en eau trouble. C'est-à-dire que les lobbies s'occupent du problème. Ils ont la gentillesse de souffler les solutions à ces instances internationales. Des solutions mirobolantes, claires comme de l'eau de roche. Comme on peut toujours prétendre avoir la solution, en l'enrobant des mots qu'il faut et de belles intentions, un des avatars de ce soin attentif à notre environnement, c'est la création de parcs naturels. Pour préserver la biodiversité, dit-on à tout bout de phrase. Et c'est l'ONU qui a lancé ce beau projet, couvrir la Terre de parcs naturels. Enfin, sans trop perturber, je suppose, les accaparements de terres pour d'autres usages plus lucratifs. Quoique, il semble reconnu que ces parcs doivent rapporter quelque chose quand même, comme nous allons le voir. En attendant, laissez-vous emporter sur le mont Omei, montagne sacrée du Sichuan. En sommes-nous ? La création de parcs naturels repose sur l'idée qu'il faut préserver la biodiversité ou ce qu'il en reste. Quand on pense parc naturel, c'est souvent la forêt qui nous vient à l'esprit, parce que les forêts recèlent l'essentiel de la diversité biologique terrestre. Et c'est cette biodiversité qui est garante de notre possibilité d'adaptation, de résilience, comme on la nomme aujourd'hui. Au changement climatique. Que deviennent les forêts ? Les forêts occupent 31% des terres émergées, soit une superficie forestière mondiale de 4 milliards d'hectares. Selon la dernière édition du rapport sur la situation des forêts du monde, publié le 22 mai 2020, la superficie forestière mondiale a diminué de 178 millions d'hectares entre 1990 et 2020, soit en moyenne 6 millions d'hectares par an. Ce même rapport nous dit qu'il est urgent d'agir, car la conservation de la biodiversité mondiale dépend de la manière dont nous interagissons avec les forêts mondiales et l'utilisation que nous en faisons. Qui sont les parrains de ce rapport ? L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, c'est-à-dire la FAO, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNU. En passant, je vous signale que cette FAO, Organisation pour l'Alimentation, qui, je cite, « mène des efforts internationaux vers l'élimination de la faim ». Notre objectif, est-il précisé, est d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous. Eh bien, selon les recensements officiels, il y avait en 2007 un milliard d'individus souffrant de famine. Aujourd'hui, il y en a 2 milliards. Qu'en dites-vous ? Et on continue à entretenir ces instances qui coûtent la peau des fesses. Dans le rapport sur les forêts, on évoque même la crise du Covid-19 qui, je cite, « a mis en lumière l'importance de conserver et d'utiliser de manière durable la nature, reconnaissant que la santé des populations est intrinsèquement liée à la santé des écosystèmes ». Bravo pour cette découverte! On a peut-être enfin compris que le « croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la » de la Bible n'est plus d'actualité. Le rapport souligne aussi que des millions de personnes à travers le monde dépendent des forêts pour leur sécurité alimentaire et pour leurs moyens d'existence.
Ayahuasca y mamancunam, chamuririri, ayahuasca y mamancunam, chamuririri, cura cura cuerpecito, callariri, cura cura espíritu, callariri, trainanainanainam, trainanainam. Rai-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- 리리 조조와 샤이마마구나 샤모리리리리 고라고라 꼴페시도 가야리리리 고라고라 스피리토이니 가야리리리 나이나나나나나이남 나이나나나이남 나이나나나나나이남 나이나나나이남 도마펜데마마구나 샤모리리리리 도마펜데마마구나 샤모리리리리 고라고라 꼴페시도 가야리리리 고라고라 스피리토이니 가야리리리 나이나나나나나이남 나이나나나이남 나이나나나나나이남
Voilà pour le constat. Et maintenant, voyons comment ce problème est traité. L'ONU déclare avoir pour objectif d'éteindre des zones protégées sur 30% de l'ensemble des forêts. Il faut améliorer la coopération mondiale dans le but de restaurer les écosystèmes dégradés et abîmés, de lutter contre le changement climatique et de protéger la biodiversité. Et la solution, ce sont les parcs naturels. Les chartes des parcs sont vertueuses et déclinent ces principes avec force, catégorie et détail. Ces grands principes sont énoncés à l'aide des termes désormais classiques de la protection de l'environnement et du climat, développement durable, biodiversité, protection de l'environnement, transition écologique, énergie propre, etc., etc. Oui, mais il y a la réalité sur le terrain, car derrière ces grands principes, il y a la grande question du sort réservé aux populations qui habitent ces zones protégées. La main sur le cœur, pourrait-on dire, toutes les instances internationales, le plus souvent parties de l'ONU, font des déclarations fracassantes sur le respect des autochtones et de leur territoire. En 2011, déclarée Année internationale des forêts, l'accent a été mis sur le rôle des populations indigènes, et même la FAO, encore elle, dans un exercice de schizophrénie, désormais manière générale de gouverner, a rappelé que des millions de personnes tributaires des forêts jouent un rôle vital dans la gestion, la conservation et le développement durable des forêts de la planète. N'est-ce pas l'UNESCO, encore une émanation de l'ONU, qui déclare dès 1972 qu'il est nécessaire de protéger le patrimoine matériel, naturel et culturel de l'humanité? C'est bien unique et irremplaçable à quelques peuples qu'ils appartiennent, et l'importance de sauvegarder les cultures autochtones. Alors, comment ça se passe dans les parcs naturels? En France, il existe 11 parcs nationaux. La Vanoise, Porquerolles, les Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, le Mercantour, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, les Calanques et le dernier en date, le parc national de Forêt. Dès l'origine, en 1963 pour le parc de la Vanoise, les dispositions à propos des parcs oscillent entre deux pôles, interdire ou aménager. Interdire à la population locale leurs activités de chasse, de pêche, voire d'agriculture, notamment dans la zone appelée cœur ou noyau de parc, ou alors aménager ces parcs pour autoriser le tourisme, recevoir un large public et permettre des activités commercial. À ce jour, après des tensions vives entre les habitants et les aménageurs, les populations autochtones, bien sûr, sont restées sur place et bénéficient des retombées commerciales du développement du tourisme. Cependant, Il est à signaler que cet équilibre n'est pas respecté dans le parc français de Guyane, où les peuples autochtones, essentiellement des Amérindiens, continuent à souffrir des règles imposées. Dans la précédente émission consacrée à la Guyane, j'évoquais le cas de ce parc de Guyane. Sous prétexte de protection de l'environnement, les droits des Amérindiens à subsister de la chasse, de la pêche, comme traditionnellement, sont réduits, alors que ce parc est ouvert au tourisme et à certaines formes d'exploitation, à condition qu'elles soient dites durables. Ce qui, nous le savons bien, avec le greenwashing, n'assure aucune véritable protection de la nature. Et alors que les Amérindiens ont exploité la forêt amazonienne pendant des millénaires en maintenant son équilibre. Ça se passe ailleurs. Dans les parcs situés en Afrique, en Asie, en Amérique, la tendance est de combiner les deux solutions, c'est-à-dire interdire aux populations autochtones leurs activités de subsistance traditionnelles et promouvoir le tourisme durable et écologique, bien sûr, ainsi que des activités industrielles comme l'utilisation durable du bois et même l'extraction minière, comme dans le parc de Guyane. En allant sur la toile avec pour mot-clé « Parcs naturels mondiaux », j'ai atterri sur divers articles qui dénoncent le « colonialisme vert » que constitue la création des parcs naturels de préservation de la nature sous la houlette d'organismes internationaux de préservation de l'environnement, WWF en tête, et l'UICN, Union mondiale pour la nature, le programme des Nations unies pour l'environnement, etc. Les agences de développement national sont très actives aussi dans la définition des parcs nationaux. Pour tous, l'homme et la nature ne peuvent cohabiter sur le même territoire, enfin, à quelques détails près. Dans un document intitulé « Aires naturelles protégées et peuples autochtones » de Christian Haas, publié en janvier 2018, on peut lire « Jusqu'aux années 70, les activités humaines devaient être exclues des parcs et des réserves, car la conception occidentale dominante considérait que ces aires protégées étaient menacées et dégradées lorsque la population augmentait et que la pression anthropique s'accentuait autour d'elles. Cette conception a été dénoncée par des anthropologues et des ethnologues. Elle conduit, lors de la création des aires protégées, à des expulsions, l'éloignement des populations locales, la dépossession des terres, l'interdiction ou la limitation des activités traditionnelles. On pourrait s'interroger sur l'origine de la pression anthropique. Est-ce vraiment le fait des autochtones, comme le laisse supposer leur éradication des lieux protégés ? On peut lire aussi, dans un article du 2 septembre 2020, 128 ONG et experts de l'environnement et des droits humains avertissent aujourd'hui. Le projet de l'ONU pour protéger 30% des forêts de la planète d'ici 2030 par des créations telles que les parcs nationaux pourrait entraîner de graves violations des droits humains et causer un préjudice social irréversible aux personnes les plus pauvres du monde. On estime que le nouvel objectif pourrait déplacer ou déposséder jusqu'à 300 millions de personnes. Stephen Corey, du Survival International, a déclaré « L'appel à faire de 30% du globe des aires protégées est en réalité un accaparement de terres colossales aussi important qu'à l'époque coloniale européenne, et il y apportera autant de souffrances et de morts. Ne nous laissons pas berner par le battage médiatique des ONG de protection de la nature et de leurs bailleurs de fonds gouvernementaux et onusiens. » Dans des régions telles que le bassin du Congo en Afrique et l'Asie du Sud, une série de reportages récents a révélé que des communautés continuent d'être déplacées et dépossédées pour faire place à des aires protégées. Ils sont confrontés à des agents anti-braconnage lourdement armés qui n'hésitent pas à faire usage de leur force et commettre des crimes. Voici un exemple, celui des San, dans la réserve du Central Kalahari au Botswana. Les San sont déplacés de la réserve vers des camps forcés. Le gouvernement tente d'y transformer les chasseurs-cueilleurs en travailleurs salariés. Les San sont contraints de s'adapter à une rapide et violente sédentarisation. Une appropriation territoriale autochtone se trouve remplacée par une valorisation au prétexte de la conservation de la nature, avec de nouvelles opportunités de profit qu'elle génère, telles un tourisme de luxe et la mise en défend des réserves de diamants. En Inde, les peuples tribaux dont les terres ont été transformées en réserves de tigres sont en danger. Leur gouvernement les expulse illégalement de leurs terres ancestrales, au nom de la conservation. Pourtant, dans le premier cas où un peuple a obtenu le droit de rester sur sa terre ancestrale, le nombre de tigres a augmenté à un rythme 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Signalons encore les nombreux textes internationaux qui mentionnent le rôle des populations autochtones dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. La meilleure manière de traiter les questions environnementales et de permettre la participation des peuples autochtones concernés. Lit-on dans le principe numéro 15 de la déclaration du sommet de la Terre en 1992. La même année, la Convention sur la diversité biologique admet que les modes de vie autochtones contribuent à la protection de l'environnement. Mais rien n'y fait. Le rouleau compresseur de la protection de la biodiversité et de l'environnement, actionné par ceux-là même qui ont conduit à la situation actuelle, continue sa marche vers la détection de toute source de profit et sa mise en œuvre au mépris total de l'être humain. Eh bien, voilà ce que j'avais envie de vous signaler à propos de ces parcs naturels qui, à première vue, semblent une initiative intéressante pour préserver ce qui peut l'être encore. Et donner quelques raisons d'espérer supplémentaires. Alors, doit-on définitivement désespérer ? À vous de voir. Selon que vous êtes tenant du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. L'illustration musicale a été successivement une évocation sur le mont Omei, montagne sacrée du Sichuan, en Chine, Icaros, chant de guérison au Pérou, Sacred River, chant spirituel amérindien, un chant basque de Peio Serbiel, Koblalagriak, Kimopo Yonen, accordéoniste finlandais dans Cluster, et enfin un chant de Global Soul. Cette émission se termine. Vous pourrez éventuellement la réécouter demain à 8h15 ou samedi à 16h. Ou, bien sûr, comme d'habitude, quand vous le voulez, sur radiosaintafrique.com, les mensuels culturels. La prochaine émission est programmée pour le 12 janvier 2021. Peut-être que d'ici là, les taux du Covid-19 et de la sécurité globale se sera desserré. C'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux en cette fin d'année, n'est-ce pas? Encore un petit peu de nature, un orage à Millau et un lever du jour à Vendelove, zone non protégée.